21 heures. Au quotidien, avec Hélène Denis.
Juin 2026. Bon mardi à tous et à toutes. J'espère que vous êtes en forme en cette très belle journée à saveur estivale. Mathieu, vous êtes de turquoise vêtu ce matin?
Oui.
Vous essayez de le cacher, vous n'assumez pas cette couleur-là qui vous va très bien.
J'essaie de cacher mon torticolis.
Votre torticolis?
Mais oui.
Non!
Mais oui. Mais c'est pas grave, hein? Depuis dimanche. Dimanche.
Ah bon?
Et ça va.
Est-ce que c'est parce que vous avez mal dormi, vous avez un mauvais matelas? On parle des bons matelas, là, dans la revue Protégez-vous.
Je n'ai pas la conscience claire, semble-t-il.
Ah, la mauvaise conscience donne le torticolis.
J'ai un très bon matelas.
C'est parce que vous avez trop lu de BD en fin de semaine.
Exactement. Oui, je me suis gâté. J'ai acheté d'un coup 5 Rabagliati, les 5 premiers.
Oui, Michel Rabagliati qui était ici en entrevue pour parler de, entre autres, sa nouvelle BD, son nouveau roman illustré, parce que c'est pas tout à fait une BD, là. Il y a quand même quelques cases, mais il était avec nous jeudi dernier. On a eu beaucoup de plaisir. Et puis, Mathieu, ben, s'est laissé un peu emporter, là. 5 BD.
Ben, il était temps, je n'avais rien lu.
Oui. Laquelle vous avez préférée? Là, vous en avez acheté 5?
J'ai acheté les 5 premiers. J'ai lu les 3 premiers.
Les 3 premières ou les 3 premiers livres?
J'ai bien aimé le deuxième, qui est Paul a un travail d'été.
Ah oui. Est-ce que vous êtes identifié à Paul?
Non, pas non. Ben, dans certaines cases, oui, mais pas
ouais,
dans
l'ensemble. Ouais. Mais ça fait du bien. C'est un bon investissement, je pense. Je ne veux pas y faire de publicité, là, mais c'est parce que quand on les a, on les prête aussi à ceux qu'on aime, puis on espère les ravoir.
On espère les ravoir.
Et aussi, c'est une lecture réconfortante. Oui, quand on a un petit coup de cafard, là, on prend un Paul, puis... On se sent mieux. Alors, là-dessus, André, comment ça va, vous?
Ça va.
Oui, André Lacombe qui est avec nous pour notre plus grand plaisir, qui parle de mots M-O-T-S, qui parle d'éphémérides, de voyages, et aujourd'hui, des vins.
De vins, voilà.
Des vins d'été.
Quels des vins? Bah oui, des crus, je dirais, bien adaptés à l'été. Hein? L'été qui semble enfin s'installer.
Ah oui.
On l'a tellement attendu.
On le ressent aujourd'hui.
Oui.
Bon, on l'attend, mais on faut l'attendre parce qu'il n'est même pas arrivé officiellement, selon le calendrier.
Officiellement, non. Ouais. Ils disent que l'été météorologique commence début juin, d'habitude.
Oui, c'est vrai, le 1er juin, vous avez bien raison. Mais on dirait que tout est décalé.
Effectivement.
Oui. Alors, on va prendre bientôt nos vacances au mois de novembre. Bon, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle.
Eh ben non.
Mais donc, vous serez là, vous êtes là, mais vous serez là pour votre chronique autour de 9h45. Merci,
comme
André.
Toujours. À tantôt.
Et puis, nous aurons aussi la chronique économie avec Michel Poitevin. Également, on parlera avec Denis Brott. Je ne sais pas si on dit Denis Brott ou Denis Brott. On lui demandera. Il est le fondateur, directeur général et artistique du Festival de musique de chambre qui a 31 ans cette année et qui s'ouvre aujourd'hui même. La chronique livre avec Anne-Marie Aubin qui a lu et qui a beaucoup aimé le livre « Wananish, amitié, deuil et pêche à la mouche ». C'est écrit par Olivier Lucier. Et c'est pas mal ça, des parts actualités. Et on part avec une nouveauté qui s'intitule « Quand le soleil frappe à la porte » par Bay.
Est-ce qu'on pourra voir plus clair quand on aura pris une croisée sans jamais voir la lune. La mer nous bercera jusqu'au sommeil, mais les étoiles seront toujours dans le ciel. Et quand la cloche aura sonné, sera-t-elle assez forte pour l'écouter? Le temps est passé avec changer.
Quand le soleil frappe à la porte, une chanson du groupe B.
Merci Mathieu. À la une du Devoir, une très triste histoire, un soutien plus humain réclamé pour les épileptiques. En 2023, Antoine Lavoie s'est enlevé la vie à 17 ans, plus de 3 ans après avoir commencé à souffrir d'épilepsie. Aujourd'hui, sa mère réclame que chaque Québécois obtenant nouvellement un diagnostic de cette maladie soit orienté vers des ressources de soutien. Une recommandation formulée par le bureau du coroner à la suite du décès de l'adolescent. Antoine aurait eu 21 ans le 5 mai dernier. L'épilepsie lui a pris sa vie, confie sa mère Josée Deslongchamps, la voix nouée par l'émotion. L'adolescent, qu'elle surnommait son petit clown, aimait les tracteurs et travaillait à la ferme familiale de Macamic en Abitibi-Ouest, relate la femme de 44 ans. La vie du jeune homme a toutefois basculé quand il avait 14 ans, avec une première crise d'épilepsie, puis plusieurs autres ensuite. Malgré de nombreux traitements et un suivi neurologique, la maladie résiste, le diagnostic tombe, épilepsie réfractaire aux médicaments. Dès lors, Antoine accumule les deuils. Il ne peut pas obtenir un permis de conduire et se retrouve ainsi limité dans ses déplacements, note la coroner maître Julie Kim Godin dans son rapport. Ses perspectives d'emploi en foresterie sont aussi réduites. Plusieurs postes exigent du travail de nuit, ce qui est incompatible avec sa maladie. Selon sa mère, les différents médicaments qu'il essaie lui causent d'importants effets secondaires. En juillet 2022, il reçoit même un stimulateur dans l'espoir de réduire les crises dont il souffre, mais les résultats déçoivent. « On a tout essayé », raconte Mme Deslongchamps. À la fin janvier 2023, après une journée passée sur les terres familiales, Antoine envoie un message d'amour à ses proches. Il s'enlève la vie peu après. Il avait pourtant plusieurs projets en tête, dont un programme de formation et un départ prochain en résidence étudiante, souligne sa mère en réprimant un sanglot. Ça s'est passé tellement vite, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et à la suite de son décès, la coroner Julie Kim Godin a mis en évidence un manque important de soutien psychosocial pour les personnes atteintes d'épilepsie. Alors que beaucoup d'efforts ont été consacrés au traitement médical d'Antoine, peu de ressources l'ont aidé à faire face aux conséquences psychologiques de sa maladie. La coroner souligne aussi que les patients doivent souvent eux-mêmes chercher les ressources d'aide disponibles, alors qu'il existe peu de liens directs entre les médecins et les organismes communautaires spécialisés en épilepsie. Elle recommande donc à Santé Québec de s'assurer que chaque personne recevant un diagnostic d'épilepsie ainsi que ses proches soient orientés dès le départ vers un organisme communautaire ou un groupe de soutien. Elle insiste sur l'importance d'un accompagnement précoce et équitable dans toutes les régions du Québec. Santé Québec affirme être consciente de ces enjeux et étudie des moyens d'améliorer la coordination entre le réseau de la santé et les organismes communautaires afin de faciliter l'accès aux soutiens spécialisés. Pour la mère d'Antoine, un tel accompagnement aurait pu faire une différence. Au moment du diagnostic, sa famille s'est sentie seule au monde. Si vous pensez au suicide ou vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles en tout temps au 1-866-APPEL, 1-866-277-3553, par texto 53-53-53 ou par clavardage à suicide.ca. Maintenant, la une du Journal de Montréal, écœurée de Montréal, 11 mois d'attente moyenne pour un permis, excédé par les délais comme plusieurs entrepreneurs, Thomas Smithers préfère quitter la métropole. Et autre titre à la une du Journal de Montréal de ce 9 juin, le plus grand réservoir à son plus bas en 20 ans, Hydro-Québec sous pression. On a plus de détails sous la plume de David Descoteaux. Le plus grand réservoir d'Hydro-Québec ne contient qu'environ le quart de son volume, une première en plus de 20 ans, au moment où la Société d'État lance ses premières livraisons d'électricité vers New York. Un an après que le journal eut rapporté que le réservoir Kania-Pisco était à moitié vide, la situation s'est encore détériorée. Et puis, la une de la presse plus, une autre mauvaise nouvelle inquiétante, un égout en pleine nature. Les Cèdres, c'est en Montérégie, à Vaudreuil-Soulanges, a hérité d'une usine d'épuration privée inopérable. Mais en l'absence d'aide pour la réparer, la municipalité déverse discrètement depuis des mois les eaux usées brutes de tout un quartier dans un ruisseau. C'est un dossier d'Hugo Jonca.
Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, y a de la joie, partout y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour, bonjour les demoiselles, y a de la joie, partout y a de la joie. Le grimoulanger bat la pâte à plein bras, il fait du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas comme un ange bleu, pourtant c'est le trop bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel. Grisé de soleil, de chansons et de fleurs, il court vers le bois, il court à toute vapeur. Il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la Seine à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et y a de la joie, le percepteur met sa jaquette plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui, fini la quête, garde tout, monsieur, garde tout, tout, tout. Mais voilà que soudain, je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, et oui, car le ciel est gris. Ah, il faut se lever, se laver, se vêtir, et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que mon rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles. Y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit. Y a de la joie, et du soleil dans les ruelles. Y a de la joie partout, y a de la... Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour les demoiselles, y a de la joie partout, y a de la joie.
Devinera-t-on le titre de cette chanson de Charles Trenet?
Non.
Il y a de la joie.
Oui, il y a de la joie. Une chance qu'il y a de la musique. Gros clin d'œil à l'album illustré de Michel Rabagliati. Il y a de la joie. Titre ironique, lui qui commence avec une série de mauvaises nouvelles et moi qui viens de vous en donner pas mal des mauvaises nouvelles. Une chronique qui va nous rendre de belle humeur. Et on rappelle que la modération a bien meilleur goût.
Bien sûr.
Chronique vin avec vous, André. Absolument. Vous commencez avec 3 vins blancs, tout indiqué oui. Pour l'apéritif.
Oui. J'allais dire, faut avoir le vin joyeux et non le vin triste.
Ah non, le vin triste.
Pour rester dans Il y a de la joie.
C'est déprimant, oui.
Oui, absolument. On commence avec le crémant de Bourgogne, Bailly, la pierre réserve Bailly comme Jean-Maurice Bailly.
Oui.
Je vais chercher ça loin, mais
un annonceur alors. De Radio-Canada.
Ouais, c'est ça,
hein?
Ouais. Dans le temps. Belle alternative au champagne ici, avec des notes d'amande et de pain grillé, citron et pomme. sur une trame minérale. Excellent. Bien présent en bouche, mais aussi rafraîchissant avec une acidité bien balancée. C'est parfait avec les petits canapés de l'apéro, les noix, tout ce qu'on peut grignoter avant le souper, finalement.
Quelques chips.
Qui nous enlève l'appétit, quelques chips. Et à 25,95, c'est vraiment une belle alternative au champagne
bien
à ce
sûr.
Prix-là.
Hein? Ouais.
Et pour les puristes, ou ceux qui en ont les moyens, un vrai champagne, mais à un prix très doux. Le Émile Leclerc, Leclerc, E accent grave RE, nature. Nature parce qu'aucun sucre n'est ajouté lors de la fermentation, donc ça donne un vin très digeste, tout en légèreté, avec des arômes de citron, de fruits blancs, donc la poire, la pomme, et une petite touche florale, avec les traditionnelles noisettes grillées, pain brioché qu'on a souvent dans le champagne. Donc, tout est là pour 50 $ la bouteille.
C'est une aubaine là, pour un champagne.
Et je vous dis, il s'envole rapidement. Si vous avez la chance de mettre la main sur une bouteille, vous êtes chanceuse.
Mais c'est bien
parce que vraiment, à ce prix-là, c'est
rare. Et ça se donne bien en cadeau. Là. Oui. Moi, j'ai plusieurs amis qui célèbrent soit leur 50e, soit leur 60e. Une bouteille de champagne, je trouve que ça fait toujours plaisir.
C'est un symbole. Hein? C'est un symbole qui est très fort. Donc, pour ça peut être, pour l'apéro, bien sûr, mais aussi pour accompagner des plats légers, comme une belle salade d'été, un poisson grillé. Voilà. Et pour classe ce trio, un blanc espagnol avec une touche oxydative,
ça veut
comme
dire quoi, ça?
Dans le Xérès. Ah. Vous connaissez un petit peu le Xérès?
Oui, oui.
Okay. C'est le petit côté astringent, amer en bouche, là, qui nous fait saliver, nous met en appétit.
Quand je pense à Xérès, je pense aussi à Porto.
Oui, mais c'est différent.
Par rapport.
C'est différent. Okay. Oui, ce sont deux vins fortifiés.
Oui.
Mais le Xérès
a
quand même...
Mais la touche oxydative n'y est pas dans le Porto?
Pas dans le Porto, non, mais dans le Xérès, oui. Je vous dirais dans le Madère aussi.
Ah oui.
Mais dans le Xérès, je vous dirais pourquoi. Il y a un cépage qui donne ça, qu'on retrouve aussi dans le Celler del Ruhr Culero Valencia 2024.
Bon, ça, c'est le nom de la bouteille.
C'est le nom de la bouteille. Celler del Ruhr Culero Valencia 2024. C'est un vin, justement, qui est élaboré en partie avec du Pedro Jiménez, qui est le cépage du Xérès. Et c'est de là qu'on a ce petit côté qui nous fait saliver, là, souvent, qui nous met en appétit.
Oui, oui. Hum? On aime ça.
C'est original comme résultat. Ça donne un vin qui est à la fois très sec et fruité, un peu mielé, avec des notes d'amande, de noisette, souvent caractéristiques des vins de Xérès, d'ailleurs. C'est assez présent.
Il y a une personnalité, là.
Oui, une belle personnalité, oui. Et la petite amertume en finale. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'adore ça. Ça met vraiment en appétit.
On apprivoise cette note-là.
Mais ce n'est pas trop marqué dans ce cas-là, justement, parce que la proportion du cépage qui donne cette caractéristique-là est quand même pas trop présente.
Ouais. Donc, c'est subtil.
C'est subtil, mais c'est là. Là aussi, hein, avec tout ce qui se grignote, y compris, je dirais, les olives, qui sont souvent pas faciles à marier avec le vin blanc. Le petit côté acidulé de l'olive, amer. Mais ici, ça passe très bien. C'est 22 $ la bouteille. Et en prime, vous avez une étiquette un peu rigolote.
Ah oui?
Avec une illustration de tétard, parce que culero, ça veut dire tétard en dialecte valencien. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça culero comme tétard, mais ça, l'histoire ne le dit pas, mais c'est là. C'est mignon.
Bon, alors, à retenir, Celler del Ruhr Culero Valencia 2024. Vous poursuivez, André, avec deux autres blancs pour le repas ou pour prolonger l'apéritif ou l'apéro.
Pourquoi pas, vu qu'on est l'été. Disponible en demi-bouteille, ces deux blancs. Oui, demi-bouteille, là, c'est une belle façon hein, de gérer son budget, de s'offrir un vin de bonne qualité ou de limiter sa consommation aussi. Ça peut être une bonne idée. Et en passant, l'offre de demi-bouteille, mais elle est en hausse à la SEQ, dans un contexte où la consommation d'alcool est en baisse au Québec.
Bon, mais c'est une bonne idée.
Les gens sont de plus en plus conscients.
Quand on va dans un restaurant porter votre vin.
Absolument.
Ça donne quoi, un verre et demi environ par personne?
À peu près.
Quand on est
deux,
évidemment.
Des verres moyens, oui, tout à fait. Alors, je commence par un de vos vins préférés, Hélène, un Chablis.
Ah oui!
Un bon Chablis. Les Vénérables 2022 de la maison Les Chablisiennes. C'est tout ce qu'on attend d'un excellent Chablis. On a le côté frais, minéral, des notes florales, mais tout en subtilité, avec un côté un petit peu grillé, qui va accentuer sa présence en bouche avec une belle finale saline, assez longue, donc il reste présent. Le vin parfait pour accompagner un poulet rôti aux herbes, des poissons, des fruits de mer, même des fromages doux ou moyens. $23.35 la demi-bouteille, seulement disponible en demi-bouteille. Oui,
23,35 pour une demi-bouteille. C'est quand même pas donné.
C'est pas donné, mais c'est très, très bon. Comme je disais, ça peut être une façon de rendre accessible des vins qu'ils ne sont pas lorsqu'ils sont au format régulier.
Ah oui. Oui, l'autre aussi, j'aime ça,
un Grüner Veltliner. Ça, c'est un cépage autrichien qui est de plus en plus populaire. Hein? On le voit de plus en plus.
Oui, dans les restaurants, on l'offre.
Oui, oui. Le Domaine Washoe Federspiel Kolmitz 2024. Autre blanc à la fois très sec et fruité, mais ici, on est plus dans le melon-miel, la pomme mûre, avec un côté légèrement épicé. Donc, en bouche, ça nous donne un bel équilibre entre rondeur et acidité. C'est un blanc avec du caractère, hein, qui peut en prendre, qui peut être assez polyvalent. Mais moi, je le verrais très bien avec des sushis, des sashimi, même tous les plats de la cuisine japonaise, même les fritures, les tempura, les teriyaki, qui sont quand même avec la sauce... soya et vin rouge, là, qui est quand même assez présent. Mm-hmm. Donc, ça coupe bien avec ça. $15.55 la demi-bouteille, donc quand même plus abordable. Sur le site web de la SEQ, c'est indiqué que la bouteille de 750 ml est présentement en rupture de stock, je le mentionne.
Bon. Quand on lit rupture de stock, est-ce que ça veut dire qu'on arrête d'espérer ou ça va revenir à un moment donné?
Je dis bien habituellement parce que c'est pas toujours le cas, mais c'est que ça veut dire que ça va revenir. Sinon, ils vont dire discontinuer.
Ah oui, OK. Dans tes rêves.
Peut-être un jour, si t'es chanceuse.
J'allais dire quelque chose.
J'allais dire non disponible, mais...
Ah oui.
Ouais, ça, c'est la façon plus polie de le dire.
Oui. Vous terminez avec 3 vins rouges qui accompagnent bien l'été, qui sont pas en rupture de stock, ceux-là?
Pas censé.
Bon.
Ah, mais j'aimerais bien gérer les stocks à la SAQ, mais j'ai pas de pouvoir là-dessus. Alors, des rouges qui sont à leur meilleur un peu rafraîchis, comme des Beaujolais, j'allais dire des Bijolais puis des Pinot Noirs, mais non, c'est l'inverse. Donc, 3 suggestions de cet ordre-là, avec d'abord les Terres Dorées 2024 de Jean-Paul Brun.
Les Terres Dorées de Jean-Paul Brun.
ça va bien ensemble. C'est un vin d'appellation Fleury. Le Fleury, c'est une des 10 appellations d'origine contrôlée du Beaujolais, comme le Brouilly, par exemple. Donc, un Beaujolais plein de saveurs avec des notes de framboise, de mûre.
Vous n'allez pas me dire de banane, là?
Non, pas de banane.
Des Beaujolais nouveaux.
Pas de banane. Des notes florales, des notes de réglisse même sur une trame épicée, un petit peu minérale. C'est délicieux. C'est vraiment un de mes vins préférés, cette banane. Vraiment. C'est un coup de cœur pour moi. C'est vrai que le Beaujolais, ça se prend bien avec des plats un peu plus légers, hein? Ça pourrait être le cas ici. Moi, je l'ai servi dernièrement avec un lapin au citron et au parmesan. Je vous donnerai la recette, si vous voulez.
Avec grand plaisir.
C'était très, très bien. Mais comme c'est un vin qui a beaucoup d'ampleur, alors je n'hésiterais pas à le servir avec un burger ou une bavette.
Ah oui, OK. C'est un vin un rouge léger, mais qui a quand même...
Ça a de la matière, ça a du tonus. C'est un vin assez complexe.
Ça a du panache.
C'est tellement bon.
Bon.
Et en passant, Jean-Paul Brun, Monsieur Terre Dorée, c'est un des pionniers dans le renouveau du Beaujolais. Il est actif depuis 45 ans, Jean-Paul Brun. Alors, il est vraiment reconnu pour ses vins de qualité. Quand c'est écrit Jean-Paul Brun sur la bouteille, vous achetez.
C'est
un ordre.
C'est digne de confiance.
De grande confiance. Ouais. $26.60
la bouteille. Merci. On salue Jean-Paul Brun, si
bonjour,
nous
Jean-Paul.
Écoute.
Autre AOC du Beaujolais, un Morgon cette fois-ci. La Chanaise 2024 de la maison Piron, autre maison de confiance. Un style un peu différent, on est un peu plus dans le fruit, la légèreté, la cerise, la framboise, un peu moins dans les épices et dans la réglisse. Ah, c'est quand même très bien fait, c'est un peu plus près de l'idée qu'on se fait du Beaujolais. Là. Très bon compagnon pour le poulet, le filet de porc, même si c'est un petit peu relevé, ça va bien aller. Ça va bien aller! Mon Dieu, je parle bien ce matin. 25,65 la bouteille.
La Chanaise 2024 de la maison Piron.
Piron. Et pour terminer, un Pinot Noir d'Afrique du Sud, Vinum Western Cape 2023, un peu plus costaud que les précédents, tout de même fort intéressant. Framboise et prune avec muscade et cannelle.
Ah, Mathieu va aimer ça, ça.
Ouais.
Avec un cassoulet.
Plus de rondeur, là. Plus, même si on est dans le pinot noir, là, c'est généreux, là.
OK.
Tanin souple, belle rondeur en bouche. C'est très bien pour les grillades sur le barbecue, là.
Amène-moi du vinum le côté, Western Cap.
Le côté
2023.
Un petit peu brûlé, ouais, du barbecue, ouais, des fois, là.
Ah oui,
ouais,
avec
ça va,
une
côte
levée.
Bien aller avec ça.
Ben, vous, des grillades. Vous.
Oh, des bon. Grillades. 24,85. La
bon, ici. Bien. Merci pour toutes ces suggestions qui nous font saliver, André, comme d'habitude. Puis, on va se retrouver quoi dans 2 semaines?
2 semaines.
À bientôt.
Juste avant la Saint-Jean.
Oui. À bientôt.
À bientôt.
Le mandat de Marie Grégoire à la présidence direction générale de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, a été officiellement renouvelé par le Conseil des ministres sur la recommandation du Conseil d'administration de l'Institut. BANQ regroupe la Bibliothèque nationale, les Archives nationales et la Grande Bibliothèque. Frédéric Bouchard, président du CA de BANQ et aussi doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université de Montréal, affirme que nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur l'engagement et la vision sans cesse renouvelée de Marie Grégoire. Pour redéfinir nos façons de redécouvrir ou de découvrir et de consommer la culture, celle-ci affirme miser sur la transformation numérique de l'institution. Marie Grégoire se dit par ailleurs heureuse de poursuivre cette belle mission. Selon BANQ, elle souhaite faire de l'institution le cœur d'une société apprenante. Merci d'écouter au quotidien à venir la chronique économie avec Michel Poitvin.
Vous écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
Et on passe à la chronique économie avec Michel Poitvin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
La Banque du Canada doit annoncer le nouveau taux directeur demain.
Eh oui, une autre annonce demain pour le taux. On s'attend, là, la plupart des économistes qui suivent la conjoncture canadienne s'attendent à ce qu'on ait que les taux soient maintenus à 2,25. Ce serait la 5e annonce consécutive où le taux directeur ne change pas. Mais au-delà de ça, quand les banquiers centraux, le gouverneur de la Banque centrale, Tiff Mettlin, parle, puis c'est un peu la même chose dans tous les pays, les gens font très, très attention au ton, aux mots qui sont employés pour faire l'annonce. Parfois, on laisse entendre des choses. Là, ils ne parlent pas pour rien, puis faut faire attention à ce qu'ils disent. Par exemple, dans la dernière annonce, le Tiff Mettlin, qui est le gouverneur de la banque, avait affirmé, je cite, que la politique monétaire devrait peut-être faire preuve de souplesse, alors que la Banque centrale surveille les effets de la guerre en Iran sur les prix de l'énergie, ainsi que l'issue de la prochaine révision de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Alors, quand il parlait de faire preuve de souplesse, ben, les gens interprétaient ça, disaient, ben, peut-être, là, on pense que les taux vont continuer à descendre. Non, ça se peut qu'on les remonte si il y a de la surchauffe dans l'économie. Alors, c'était subtil, mais les gens ont appris à décoder un peu comment les gouverneurs, nos banquiers s'expriment.
Ouais. Il semblerait que c'est pas facile de prévoir dans quelle direction l'économie canadienne se dirige, Michel.
Ben oui, exactement. On a parlé de la guerre en Iran, l'accord de libre-échange. Il y a trois événements congés de l'économie canadienne qui attirent notre attention, puis ils donnent des signaux contradictoires. C'est pour ça que c'est pas facile. Le mois dernier, Statistique Canada a publié les chiffres du produit intérieur brut, le PIB, pour le Canada. Les deux derniers trimestres, donc en général, quand on publie ces chiffres, c'est pour le dernier trimestre. Les deux derniers trimestres ont affiché une baisse du PIB. Ça veut dire qu'on a produit un petit peu moins que le trimestre précédent. Sur une base annuelle, le dernier trimestre de 2025, on avait perdu 1 %. Puis le premier trimestre de 2026, 0,1 %. Et puis ça, ce que ça signifie, c'est que l'économie canadienne se contracte un petit peu. Et puis, on peut se poser la question, est-ce qu'on est en récession? Mais la définition que les gens ont adoptée pour une récession, c'est si on a deux trimestres consécutifs où il y a une baisse de... pas une baisse de la croissance, une baisse même du niveau, là, une contraction de l'économie, c'est ce qu'on a. Donc, le Canada serait en récession technique.
Ouais.
Alors ça nous dit, peut-être que l'économie fonctionne au ralenti. Est-ce qu'on va vouloir baisser les taux d'intérêt, si je reviens à notre annonce qu'on va avoir demain? Mais attention, quand on regarde l'inflation, la dernière annonce, je pense qu'on en avait parlé la semaine dernière ou il y a deux semaines, l'inflation a grimpé à 2,8 % en avril sur une base annuelle. C'est la plus forte hausse des prix depuis près de deux ans. Mais si les prix augmentent, ça veut dire que l'économie ne va pas si mal. Ça veut dire que la demande est forte, puis l'économie va bien. C'est sûr qu'il y a le facteur de l'énergie, la guerre en Iran là, qui agit là. Mais le gouverneur de la Banque centrale est attentif. Là, lui, il doit contrôler l'inflation. Il y a une cible à atteindre autour de 2 %. Donc, s'il voit que l'inflation se maintient significativement au-delà de 2 %, il pourrait vouloir augmenter les taux. Alors, ça, vous voyez, c'est un point qui est en contradiction avec le précédent. Puis finalement, vendredi dernier, Statistique Canada a publié des chiffres sur l'emploi et le chômage au Canada, puis le taux de chômage a baissé de 6,9 à 6,6 % pour le mois de mai, ce qui est quand même une baisse qui est appréciable de 0,3 de point de pourcentage. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le marché de l'emploi a rebondi. On a une création de 88 000 emplois, nouveaux emplois en avril au Canada. Puis la plupart de ces emplois sont des emplois à temps plein. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça nous dit, si le marché de l'emploi est fort, peut-être que l'économie est vigoureuse. Je peux peut-être juste une petite parenthèse. Là, au Québec, on avait perdu 11 000 emplois depuis le début de l'année. Mais là, au mois de mai, on a ajouté 13 000 nouveaux emplois. Donc la tendance semble s'être renversée.
On a perdu 91 000, vous dites, depuis le début de l'année. Puis là, depuis mai, on en a gagné 13 000 emplois.
La perte est encore nette pour le début de l'année. 91 000, c'est de janvier à avril. Donc, moins 91, puis mai pour le mois de mai, plus 13. Alors, là, on n'a pas compensé toutes les pertes, mais il y a une tendance qui semble être à la création d'emplois. Puis le taux de chômage a baissé de 6,2 à 5,6 %. C'est quand même une baisse appréciable. Bon.
Ça surprend les économistes, ces créations d'emplois-là?
Oui, on s'attendait pas à ça du tout. On s'attendait à ce qu'il y ait une légère croissance de l'emploi, mais pas à ces niveaux-là. Donc, encore une fois, l'économie va pas si mal. Est-ce qu'on va augmenter les taux? Il reste beaucoup d'incertitudes de où s'en va l'inflation. On a les guerres tarifaires qui sont toujours là, la guerre en Iran avec le coût de l'énergie. Puis aussi, on a commencé des négociations pour la prochaine révision de l'accord Canada, États-Unis, Mexique, l'accord de libre-échange. Il y a beaucoup d'incertitudes qu'est-ce qui va arriver avec cet accord. Donc, si jamais on avait des mauvaises nouvelles, ce serait l'économie canadienne en pâtirait. Donc, on voudrait baisser les taux. Donc, tous ces signaux-là contradictoires nous disent qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Puis c'est pour ça que après tout ça, les gens s'attendent à ce que le taux demeure inchangé à 2,25 %. L'annonce va être faite demain. Mais il faudra voir encore une fois au langage de notre gouverneur pour voir est-ce qu'il anticipe d'ici la fin de l'année une hausse des taux d'intérêt. Les marchés semblent s'attendre à ce qu'il y ait des hausses de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année, mais là, il y en a qui disent « Oups, là, c'est moins sûr, là. On va voir ce qui va arriver. » Donc, on va suivre ce que notre gouverneur va nous annoncer demain puis quels mots il va employer.
D'accord. Alors, à suivre, et ça s'en vient, là, dès demain. Habituellement, c'est en l'après-midi? Pas nécessairement.
Non, c'est le matin. Là,
oui, c'est vrai. Je suis souvent en onde quand c'est annoncé.
Oui,
et Michel...
C'est 8h30 souvent.
OK. On va en parler puis on va penser à vous. Et on a un petit peu de temps là pour parler d'un autre sujet, c'est Ottawa et l'Union européenne qui entament des discussions pour une plus grande coopération économique dans certains secteurs.
Oui, en ce moment, on a la conférence de Montréal, qui est l'espèce de Davos québécois. Là. Ça relie, c'est une conférence internationale, une grande renommée internationale, puis ça rassemble des leaders de plusieurs pays, des décideurs issus des milieux gouvernementaux, milieux des affaires, milieux académiques. Puis on discute de sujets variés, autant de l'économie que de politique, puis leadership mondial, et même d'environnement, durabilité, énergie. Donc, vous voyez un peu, ça ressemble à une espèce de Davos, sommet de Davos en Suisse, mais québécois et francophone. Alors, évidemment, Ottawa est présent, Mélanie Joly y est, l'Union européenne également. Puis on a commencé des discussions pour essayer d'unifier, là, libéraliser les échanges, le commerce pour certains secteurs, certains marchés. Puis on veut se prémunir contre le protectionnisme, ou c'est une façon de se diversifier face au protectionnisme américain. Puis il y a une forte concurrence asiatique. On est subtil, mais ce qu'on en entend par là, c'est la Chine. Ce qui se passe en Chine rapidement, la demande intérieure est relativement faible. Alors, pour stimuler l'économie, le gouvernement chinois aide les entreprises à exporter. Donc, on a l'impression que les exportations sont subventionnées, ce qui fait une concurrence déloyale à l'international. Il y a beaucoup de pays qui n'aiment pas ça, là, parce que les biens chinois arrivent, sont vraiment pas chers, mais pas parce qu'ils coûtent pas cher à produire, mais parce qu'ils sont en partie subventionnés par le gouvernement chinois là, en réponse à la faible demande intérieure là-bas. Donc, tout ça prête au contexte. Là. Souvenez-vous, Mark Carney à Davos, justement, là, il y a quelques mois, qui avait fait un discours qui avait été très bien accueilli, où il avait dit que les économies veulent, les Américains veulent jouer de leur bord, mais peut-être que nous, on devrait s'arranger de notre côté. je vulgarise un petit peu, là, c'est pas évidemment pas ces mots. Mais donc ça incite l'Europe et le Canada à se rapprocher économiquement, puis notamment dans le secteur de l'automobile, les matières premières, l'aluminium, l'aéronautique et
les semi-conducteurs. Ah. On a perdu le mot semi.
Oui, semi-conducteurs, ouais. Effectivement. Et puis, donc, donner un exemple, le Canada est en déficit, si vous voulez, de semi-conducteurs. On n'en produit pas beaucoup. En Europe, on en produit. Donc, on pourrait avoir des échanges avec l'Europe à ce niveau-là. Puis, de l'autre côté, nous, on peut leur fournir des métaux critiques. Là, on a beaucoup de ressources minières, alors qu'en Europe, ils en ont moins. Donc, on voit qu'il y a des intérêts, là, des intérêts économiques qui se rejoignent. Et puis, ben, on entame des discussions. Là. Il n'y a encore rien d'officiel, là, mais il y a des discussions qui commencent là, entre l'Europe et le Canada.
La conférence, elle est commencée?
Oui, je pense que ça a commencé hier pour 3 jours. Là. Attendez, je pense que j'ai les dates. Je sais, c'est-tu du 8 au... Attendez une minute... Conférence de Montréal. Voyons, j'avais les dates sur... du 8 au 10 juin. Alors, ça a commencé hier, ça finit demain.
OK. Puis, est-ce que vous êtes invité, vous, les économistes?
Non, je n'ai pas été invité. Je ne dois pas être un assez grand leader mondial.
Vous êtes le leader de Canal M en matière d'économie, en tout cas.
Ça me fait plaisir.
Merci beaucoup, Michel. À la semaine prochaine.
Au revoir.
C'est une pièce qu'on va entendre lors du concert Célébration Chopin le dimanche 14 juin en après-midi à la salle Bourgie. Et ce concert fait partie des 16 concerts présentés au Festival de musique de chambre de Montréal qui s'ouvre aujourd'hui et qui se termine le 21 juin. Il y aura des concerts à la salle Bourgie et à la Maison symphonique. Pour en parler, je joins au Québec, on l'appelle Denis, et ailleurs, Denis Brott, fondateur, directeur général et artistique du festival. Bonjour, Monsieur Brott.
Bonjour, comment allez-vous?
Mais ça va bien, vous nous parlez en roulant, là, si je comprends bien.
On est très excité, c'est le début du festival. On travaille pendant presque 2 ans pour créer chaque festival. On a 60 artistes qui viennent un peu de partout. Donc, c'est très excitant pour moi, surtout parce que je suis la personne qui met tout ça ensemble.
Oui. Alors, Denis, en quoi consiste la musique de chambre? Pourquoi cette appellation?
Ben, excellente question. Les origines, c'est le fait que la musique, avant qu'on avait des enregistrements et le radio et tout ce qui est électronique, si on voulait entendre la musique, on devait le faire nous-mêmes. Et la musique de chambre, c'était chambre en dans le sens de salon,
oui.
Jouer chez vous avec presque tout le monde qui avait des moyens, avait un piano chez lui. La musique faisait partie de leur vie quotidienne. Musique faite à la maison. Donc la musique de chambre, l'origine de ça, c'est exactement ça. Et bien sûr, maintenant, ça devient partie de tout ce qui est offert dans le domaine de musique classique et aussi contemporaine. Mais dans notre cas, on fait non seulement la musique classique, mais on fait aussi le jazz.
Oui.
Le jazz est aussi la musique de chambre. Autrement dit, il n'y a jamais un chef. C'est une démocratie musicale en fonction où chaque personne prend sa responsabilité et a aussi la possibilité d'avoir un impact sur la totalité de l'œuvre ou de l'interprétation.
Il n'y a pas de limite de musiciens sur la scène, même si on appelle ça de la musique de chambre, de la musique de salon?
Ben, en effet, oui. Généralement, la musique de chambre, c'est des équipes entre 2 et 10 personnes, ce qui est commode sans chef. Et même la musique solo est considérée comme la musique de chambre. Cette année, on fait, par exemple, on commence aujourd'hui à midi, avec l'intégrale des œuvres pour violon solo de Johann Sebastian Bach. Donc 3 programmes différents, aujourd'hui le 9, le 11 à midi et le 13 à midi.
Oui, à midi, c'est une belle heure. Hein? Pendant l'heure du lunch, là, on mange rapidement, puis ensuite on s'en va à la salle Bourgie pour écouter.
Les concerts sont d'une durée juste 1 heure.
Oui.
Donc, c'est très normal pour les gens de prendre un break et pour s'inspirer. La musique de Bach, c'est à l'origine de toute la musique de l'Ouest, n'est-ce pas?
Oui. Et pour ce soir, on parle de Brahms.
Oui, ça s'appelle « Pour l'amour de Brahms ». J'espère que vous aimez Brahms.
Aimez-vous Brahms? Oui.
Aimez-vous Brahms. Et en effet, c'est de la musique romantique, n'est-ce pas? Je crois que la plupart du public aime le Brahms, même si on n'est pas connaisseur de la musique classique. C'est de la musique très accessible. Et dans le cadre de ce concert, il y a 3 sortes de présentation, des danses pour violon et piano, un trio pour corps, violon et piano, et un magnifique, majestueux quintette pour quatuor à cordes et piano.
Ah, et vous, Denis Brott ou Denis Brott, vous, vous êtes un mélomane, un musicien, vous jouez du violoncelle, vous allez participer à certains concerts là, qui font partie de, du Festival de musique de chambre de Montréal.
En effet, je joue ce soir. J'ai passé une grande portion de ma carrière en faisant des concerts de musique de chambre parce que j'étais dans le quatuor Orford pendant plusieurs années. On a fait des tournées à travers le monde et enregistré tous les œuvres, par exemple les quatuors de Ludwig van Beethoven, les 16 quatuors, on a tous enregistré. Donc, c'est une passion pour moi, la musique de chambre.
Oui, ça paraît parce que vous êtes dans le milieu depuis très longtemps. Vous êtes un vieux de la vieille, comme on dit, mais toujours animé par cette passion. Alors, ce soir, on va pouvoir vous voir dans le concert pour l'amour de Brahms. Et vous allez aussi rendre hommage à un violoncelliste russe. Parlez-nous-en. Ce sera le jeudi 11 juin à la Salle Bourgie.
Oui, ça s'appelle un hommage à Grégor Piatigorsky. En effet, il était mon professeur.
Ah oui?
Oui, et j'ai passé 5 ans, en fait, avec lui. J'ai pris ma maîtrise et j'ai resté comme son assistant. C'est un des géants du violoncelle, bien sûr, surtout au 20e siècle. Il était grand ami avec Yasha Heifetz, le grand violoniste russe, et les deux ont, en effet, démarré des concerts à Heifetz-Piatigorsky où ils jouaient la musique de chambre entre amis. Donc j'ai eu cette influence et Piatigorsky était une influence extrêmement importante, non seulement dans ma vie comme violoncelliste, mais aussi en ce qui concerne mes priorités dans la vie.
Ah oui.
Il était presque un philosophe et il avait des leçons à nous faire apprendre comment vivre, non seulement comment jouer.
Et quelles sont vos priorités dans la vie, Denis Brott?
Par exemple, il était toujours très simple dans ce... Mais tous les messages étaient livrés par des sortes d'histoires. Par exemple, un jour, je suis allé lui voir, je ne savais pas quoi faire. Il m'a dit, écoute, Denis, il y a deux sortes de personnes dans le monde. Une sorte qui vous tire vers le haut et une autre sorte qui vous tire vers le bas.
Il avait bien raison.
Restez proche aux premières sortes. Et ça va tout aller bien. Et il avait bien raison.
Mais quelquefois, c'est difficile. On le sait, mais c'est difficile d'aller vers des gens qui nous tirent vers le haut. On ne sait pas pourquoi. On est drôlement fait, des fois, les humains. Mais,
En effet, la chose qui est difficile, c'est de reconnaître qui est qui.
Oui, c'est ça le défi. Oui.
Qui nous... Exact. Mais en effet, si on pense à ça, on peut quand même se poser des questions qui sont guidées par cette sorte de philosophie ou approche vers la vie. Vous savez, la musique, c'est un miroir. C'est un miroir de la vie.
Ouais.
Et toutes les époques de musique, que ce soit classique, jazz ou autre, reflètent les priorités de société à l'époque.
Alors, ce violoncelliste russe n'est plus. Il est mort en 1976. D'ailleurs, ce concert va commémorer son 50e anniversaire de décès. Et ce sera présenté donc le 11 juin, comme je le disais tantôt, à la Salle Bourgie. Beau programme du Villa-Lobos, du Piazzolla, les variations sur Paganini et la suite italienne. Bref, un beau concert qui commence à 19h30. Et vous parliez de jazz tantôt. Je lis ici les noms de Sinatra, Ellington, Gershwin, pas les moindres.
C'est les stars. En effet, ce concert, heureusement, est comble.
C'est complet.
Oui, c'est complet, mais on a un autre concert jazz le 19 qui figure aussi avec des grands artistes, des grandes interprètes de jazz. Et si on n'a pas des billets pour le 12, il nous reste toujours des billets pour le 19.
OK.
C'est un concert totalement différent.
Le 19, c'est autre chose. C'est les cuivres en feu.
Exact. On va atteindre le feu, mais émotionnellement parlant, ça va être en feu.
Oui, et je vois que le programme est très agréable, du Bach, Vivaldi, jazz, ça peut être vraiment beau à l'oreille. Et aussi, vous allez rendre hommage, dans le cadre de ce spectacle-là, de grands trompettistes comme Herb Alpert et Wynton Marsalis.
Exactement. En effet, notre invité, Jens Lindemann, le trompettiste de grande renommée internationale, Il était membre du Canadian Brass pendant longtemps et c'est lui qui dirige, si vous voulez, ce programme et il est vraiment virtuose sans pareil.
Denis Brotte, depuis quelques années, le festival organise des concerts santé et bien-être dans les hôpitaux. C'est quoi ces concerts-là? Ça vient d'où cette initiative?
L'initiative vient, c'est très personnel de ma part parce que j'ai souffert grandement par le COVID. J'étais un des premiers cas en revenant de l'Europe en mars 2020. Alors j'étais à l'urgence, soins intensifs au CHUM pendant 45 jours. J'ai presque perdu ma vie. J'étais dans un coma pendant 32 jours et on pensait que j'allais pas survivre. Donc je voulais, après tout ça, je voulais remercier l'hôpital. Je suis pas un homme de moyens financièrement parlant, mais je peux offrir la musique. Donc j'ai trouvé un commanditaire avec la banque TD. Et on fait des concerts gratuits le midi dans les hôpitaux CHUM, MUHC, Montreal General, le Jewish, la Chine, toutes sortes d'hôpitaux à travers l'île de Montréal. Et la musique, vous savez, c'est un art, comme la médecine est un art. Et ça se rejoint très bien parce que la musique nous donne un sens de paix, nous inspire, nous enlève de notre circonstance qui peut-être est en douleur quand on est malade. Et ça sert à un besoin extrêmement important. Donc j'ai commencé cette initiative à cause de maladie de COVID que j'ai eue et ça voit une énorme réussite à travers tous les hôpitaux où on fait visite.
Ah ben c'est une très, très belle idée qui est liée à un grand malheur. Mais là, vous allez bien? La santé est bonne?
Oui, heureusement, 75 et en santé.
Bon, alors on vous souhaite encore de bonnes années et de la santé surtout. Et on invite les gens à participer au 31e Festival de musique de chambre qui s'ouvre aujourd'hui jusqu'au 21 juin. Pour avoir tous les détails, vous allez au festivalmontréal.org. Bon festival, Denis Brotte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on va se laisser avec du Gershwin.
Super, mais merci à vous et j'espère vous voir au concert.
Oui, ça se peut bien. Votre programme est très alléchant. Pardon? Ah, il est parti. OK, au revoir. Bonne route. Soyez prudents.
Bonne journée.
Ah, c'est trop bon, hein? Rhapsody in Blue, Gershwin. Restez là pour la chronique livre avec Anne-Marie Aubin.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Lovely to call you, une chanson de Renzo Rivolta.
Oh, avec les R bien, bien, pas roulés, graisseillés surtout. Et là-dessus, on s'en va à Marie à parler avec Anne-Marie. Oh, ben, bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Je ne sais pas ce qu'il y a dans le café ce matin, mais on a du plaisir. Le beau temps aussi, ça aide au moral. Vous allez bien?
Oui.
Oui. Alors, Anne-Marie, vous avez lu un livre qui vous a touché, qui vous a plu, qui a un titre rigolo, Wananish, ben rigolo, amitié, deuil et pêche à la mouche, mais en tout cas, c'est original, là, c'est le moins qu'on puisse dire.
Tout à fait. C'est un livre que je suggère pour les gars.
Ah oui, un livre de gars.
Oui, même si on n'est pas pêcheur, parce que tout est prétexte là-dedans à parler de plusieurs autres sujets, mais des sujets vus par un jeune homme et surtout qui s'adresse à des jeunes hommes qui ne parlent pas beaucoup. Vous savez, les taiseux là, qui sont sombres parfois. Ce livre fait du bien, est bien écrit. Et puis bon, ben, il traite de la vie courante. Ça, c'est pas un livre savant, c'est un mélange entre un carnet de souvenirs, un livre sur la pêche avec des petits chapitres où il est question de ça. Puis aussi ben, de la poésie à travers ça sur le plaisir d'aller en rivière, d'aller en nature et puis ce que l'auteur a vécu.
Alors, Olivier Lucie, je ne le connaissais pas.
Ben moi non plus, mais j'ai su qu'il avait écrit un livre semblable qui s'appelait Cariacou aux éditions de ta mère en 2023 et qui abordait un peu de la même façon la chasse.
Ah.
C'est quelque chose que je vais aller lire parce que il s'adresse vraiment à des sujets qu'on ne traite pas beaucoup dans la littérature, puis écrite par un gars, c'est encore mieux, je trouve. Alors, Ben, c'est quoi un wananish? D'abord, c'est un petit saumon qui vit en rivière, alors que le saumon, lui, vit dans la mer et revient en rivière. On dit dans la symbolique autochtone que wananish, ça veut dire petit égaré ou encore celui qui va partout. Donc, un petit saumon, ça vient du bon sens. Alors, lui, ben, il est né à Maricourt, ça, c'est près de Richemont, Valcourt, et donc, il vit en région. Et l'éditeur nous dit qu'il est ingénieur et poète. Ça va bien ensemble, effectivement.
Ah oui.
Puis, ce livre-là aborde beaucoup de sujets presque tabous. La dépression, le deuil, les amitiés masculines, la famille, l'environnement, le territoire. Et ça se passe en région. Ça, c'est intéressant. C'est très personnel. Ça part vraiment tout le temps de lui, de son intimité, de ce qu'il a vécu. Mais tout le monde peut lire ce livre-là, on s'entend. Moi, je dis les gars parce que souvent, les gars ne lisent pas. Puis on peut donner ça à quelqu'un qui n'a jamais lu le livre-là. Puis je pense qu'il va tomber dedans parce que ça va lui parler. Alors, il faut mettre ça dans les mains d'un gars qui, lui, le mettra dans les mains d'un autre gars parce qu'il y a des hommes qui souffrent. Et ce livre-là parle un peu de ça et de comment faire, comment parler avec quelqu'un qui a des idées noires.
Mais vous êtes une fille, vous avez apprécié, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça quand on genre les choses.
Moi, parce que je suis toujours une espèce de, comment je dirais ça, de missionnaire de la lecture qui peut faire lire tout le monde autour de moi. Et j'ai dit à mon chum qui pêche la mouche, il faut que tu suggères ce livre-là à tous tes amis pêcheurs. Parce que ce ne sont pas forcément des gens qui vont lire des fictions. Ils vont lire des livres sur comment monter des mouches ou aller pêcher en rivière, etc. Mais là-dedans, il y a les deux. Alors, ça va les toucher, je suis certaine, parce que le gars raconte ces anecdotes-là, ses souvenirs avec tellement de sensibilité, d'authenticité, plein de tendresse. Et bon, ben, c'est une énorme, déclaration d'amour envers ses amis et ses grands-pères. Parce que lui, il y avait trois grands-pères et il nous raconte la relation qu'il avait avec chacun.
Il y avait trois grands-pères.
Trois grands-pères parce que, bon, il y a un grand-père qu'on apprend qui est décédé, puis sa grand-mère s'est remariée. Donc, c'est le troisième dans sa lignée. Et il est très attaché à chacun. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y en a aucun qui pêche à la mouche. Je pense qu'il ne pêche pas personne autour de lui, mais il va découvrir ça. Et puis là, il nous dit, c'est le premier chapitre, découvrir la pêche. Et là, quand ses grands-pères meurent, ce deuil-là, c'est très long pour lui, c'est très difficile. Et il dit pourquoi c'est comme ça. Je le cite, « J'ai l'impression que plus personne ne va être fier de moi. » Puis là, il nous dit plus loin, « Je dois me reconnecter sur ma façon d'habiter le monde en son absence à son grand-père. » Alors, comme ils vont tous disparaître, ben, il va un peu souffrir de ça. Puis il dit que quand il va pêcher, c'est à eux qu'il pense. Je le cite, « Quand je vais pêcher, je pense à mes grands-parents morts, mes amis disparus, à la vie qui nous glisse entre les doigts, comme les truites vigoureuses au printemps. » Quand tu es dans le silence, puis que tu as tes salopettes de pêche, ou que tu es en bord de rivière, en pleine nature, forcément, tu te concentres sur ça, mais tu penses aussi, et c'est ce que la rivière lui apporte. Ça, c'est vraiment de très beaux passages, parce que pour être allé à la pêche, quelquefois, avec des pêcheurs à la mouche, je vois le décor, les fosses, les roches, les rivières, la nature et le soleil qui miroite, puis comment tu trouves les truites, puis quelle mouche ça prend. Alors, c'est un art. Mais parfois, il y a beaucoup d'humour. Et il va dire à propos d'un entomologiste qu'il a rencontré, parce qu'il dit que de toutes les personnes passionnées qu'il a rencontrées dans sa vie, que ce soit des auteurs ou des cyclistes, c'est les pêcheurs à la mouche qui sont les plus intenses.
Ah oui!
Ah oh, oui, c'est quelque chose. Et,
ben oui, vous avez un chum, pêcheur de mouches. Vous pouvez
ici, à ma maison,
en témoigner.
Tout l'été, il vient plein de pêcheurs. Alors, j'en ai vu plus d'un. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment obsédés par ça. Ils ne parlent que de ça. Et là, il rencontre un jour un passionné d'entomologie qui lui dit que si jamais, je le cite, si jamais je devais trouver un invité pour un dîner de con, il pourrait être mon con. Et passer la soirée à parler des insectes aquatiques dont se nourrissent les truites. Il aime ça au point de se foutre de passer pour un zinzin avec ses bibites, tant que le souper lui permet de parler de pêche un peu plus longtemps. C'est ça. Alors ça, j'ai trouvé ça bien drôle parce que le dîner de con, si vous avez vu le film, vous savez qu'il faut trouver un bizarre, là, puis le présenter au groupe, ben ça, les pêcheurs à la mouche sont des êtres étranges, effectivement. Ensuite, ben, il va parler de comment lui, il en est venu aller à la pêche, comment il regarde le gobage des truites, il aime voir l'eau calme le soir, parce qu'il paraît que la passe du soir, comme disent les pêcheurs, c'est la meilleure pour attraper les poissons. Mais aussi, il va dénoncer les mauvais pêcheurs qui sont pas éthiques, qui font pas attention, qui pêchent trop, qui ne surveillent pas les règlements. Et ça, c'est un fait. C'est comme dans la chasse. Il y a des gens qui exagèrent.
Les braconneurs.
Ensuite, oui, effectivement, le braconnage, c'est le quatrième chapitre. Puis il y a une petite truite qui vient y dire « Qu'as-tu fait de mon pays? » Donc, qui dénonce un petit peu ce qu'on fait des rivières et tout ça. Il va dénoncer la pollution. Puis il parle de son ami Tom qui ne va pas bien. Ça, c'est très intéressant parce que son ami a des idées noires. Il souffre beaucoup. Alors, il veut le sauver, il l'amène en rivière, puis lui, il lui dit « tu vas pêcher », mais il est très nerveux. Donc, il parle tellement que son ami n'a pas le temps de relaxer. Et puis, ben, finalement, il dit « on n'est pas supposé être ici pour se reposer ». Mais comme il dit, la pêche, c'est pas une thérapie, mais ça aide à faire autre chose et à vider son esprit. Pardon, j'ai une grippe, là, c'est terrible.
Pour vous.
Alors, pardon. Il va parler de ses sorties en pêche, puis des deuils qu'il doit faire, mais je tiens à dire que c'est quand même un livre positif et lumineux.
Et drôle, on dirait. Il y a des moments humoristiques, là.
Oui, parce qu'il dit qu'il est un mauvais pêcheur, puis il va rire de lui-même parfois, mais à d'autres moments, il tombe dans la tendresse, dans la nostalgie du passé, puis l'amour qu'il a pour... les gens autour de lui, c'est vraiment très intense et c'est beau et ça fait du bien à lire. C'est pour ça que je dis que s'il y a des gars qui le lisent et qui le transmettent à d'autres amis qui sont plus dans des périodes sombres, c'est un livre qui fait du bien. La dernière partie s'appelle « Accrocher ses wethers ». Ça, c'est des salopettes de pêche. et je le cite. « J'aimerais ça toujours être présent pour mes amis. Je ne suis pas un monument, pas une statue, pas un pilier, pas immuable. » Pas de roc, pas de granit, pas une éponge, pas une doudou, pas un toutou. Je suis parfois une soupe chaude, un bol de spag, un murmure. J'aurai, je l'espère, toujours une épaule à la bonne hauteur pour accueillir les larmes. J'aurai, je l'espère toujours, un chandail doux, de la chaleur et des mots réconfortants. Bravo de pleurer, c'est déjà pas mal. Alors, c'est un très beau texte écrit par un gars sur des émotions de gars, la vulnérabilité qu'un gars peut vivre, les drames dont il ne parle jamais. Ben là, lui, il aime les entendre, il aime en discuter. Et je pense que c'est un livre qui fait du bien. Puis c'est bientôt la fête des pères. On peut peut-être l'offrir à un père, un ami. C'est un livre que j'ai dévoré et qui m'a beaucoup touchée à différents moments dans l'histoire. Puis à certains moments où il fait la description de ce que c'est faire un lancer, rouler, des choses un petit peu plus techniques, là, il est dit, bon, là, j'en mettrai pas trop parce que je vais tanner ceux qui sont pas des pêcheurs, puis j'en mettrai pas trop parce que les vrais pêcheurs vont peut-être me critiquer dans mes descriptions. Moi, je peux le rassurer, je suis pas une spécialiste, mais ce que j'ai lu, ça ressemble pas mal à ce que j'ai vu dans des films. C'est vraiment, il décrit très bien. Il a un grand talent de poète pour décrire les choses. Alors ça, ça m'a beaucoup touchée. Et puis, on dirait qu'à la fin, il fait un bilan en disant, bon, ben là, c'est ce qui reste. Les morts sont là, mais il faut continuer. Et puis, il y a la vie qui est là. Alors, c'est assez positif. J'avoue que c'est un gars que je vais découvrir.
Oui.
Et l'éditeur raconte que son premier livre, il l'a pas publié aux éditions Ta Mère, mais c'est pas l'éditeur qui dit ça, je pense que c'est sur Internet que j'ai vu, qui a publié ça chez Fontaine.
Fontaine.
Il l'a fait à la dactylo sur des feuilles de papier de construction.
Ah oui. Ouais. Et alors, le livre s'intitule « Pour trouver le beau », hein, celui qui a été publié aux éditions Fontaine en 2014. Voilà. Quand même, il a commencé jeune là, parce qu'il est né en 92, ça lui donne 34 ans.
Oui, donc il avait, je sais pas, 20 ans, quelque chose comme ça. Là.
Ouais.
Et il est... Puis je pense qu'il sortait de l'école, puis il avait envie de faire ça. Mais c'est ça, c'est un très, très beau livre
qui
touche. Oui, vraiment, je le suggère fortement.
Et la fille en moi est aussi touchée là, par vos propos, puis les extraits que vous avez lus. Là. Wananish, amitié, deuil et pêche à la mouche. C'est drôle parce que mon beau-frère revient de la pêche. Avoir su, là, je lui aurais offert ce livre-là, mais il n'est pas trop tard. Pour les vacances, hein, ça peut être une lecture agréable. C'est publié aux éditions de ta mère. Oui, on aime bien cette maison d'édition aussi.
Et la page couverture est très belle aussi.
Avec le gros poisson.
Qui fait toutes les couvertures de cette maison d'édition-là. Benoît Tardif.
Ah oui.
Il avait fait entre autres celle de Maud Jarry, là, la mère des larves. Là.
Oui.
Alors, il fait toujours des petits détails. Et celui-là, ça imite des guides de pêche. Donc, les pêcheurs vont se faire prendre et ils vont l'acheter.
Et quand on entre dans une librairie, ce livre-là nous frappe l'imaginaire. J'étais, pour ne pas le nommer, la librairie, une librairie à soi. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle.
Un livre à soi.
Un livre à soi, oui. Oui, oui. C'est sur Laurier-Est. Et parmi les livres, celui-là a attiré mon attention avant même que je sache que vous alliez en parler.
Oui, il est très beau, vraiment, là, c'est une belle réussite.
Oui. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, puis malgré votre grippe, soignez-vous bien, là, Anne-Marie, à la semaine prochaine.
Au revoir. Beautiful, beautiful boy stood on a beautiful beach. And when the sun stopped shining, you knew where to find the heat. Life isn't like a resort, and I acted so unlike me. The thing with the Virgo rising is you're smarter than I'll ever be. Beautiful girl, shame she looked nothing like me. And when your eyes went wandering, I couldn't just let it be. Love is a drug in a drawer, and baby, I dropped the key. Vraiment tout ce que tu dis. Come on baby, take me back. And I'll never think twice again.
La chanson « Take me back » de Charlotte Cardin.
Et si vous avez la chance de regarder son clip lié à cette chanson, il est tourné en Sicile. Les 6 premiers récipiendaires de l'initiative « Ici, nous valorisons les talents, pas les limites » ont été dévoilés le 3 juin dernier par la table régionale intégration vie active et travail de Laval, qu'on appelle aussi le TRIVA, La cérémonie tenue au Centre communautaire Régent Martin Beau dans Vimont s'inscrivait dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui a eu lieu du 1er au 7 juin. Les lauréats se partagent en trois catégories. Or, pour embauche, argent, offre de stage et bronze, partenariat de production. Le marché Métro Plus Messier-Auteuil et la pharmacie Jean Coutu, dont Nathalie Bellavance et Benoît Latreille sont les pharmaciens propriétaires affiliés dans Chomédé, se sont illustrés par leur pratique inclusive en matière d'embauche et d'intégration de personnes en situation de handicap. Le centre de jardin des serres Sylvain Cléroux dans Sainte-Dorothée et le sport expert atmosphère du méga-centre Val-des-Brises se sont vus remettre l'insigne argent en reconnaissance notamment de leur engagement dans la supervision et le suivi des stagiaires et la valorisation de leurs contributions au sein des équipes de travail. Le fabricant de mobilier de bureau Artopex Plus, implanté au carrefour autoroutier 15440, et Camro Industriel, un producteur et distributeur de chaussures, de semelles et d'équipements de travail établis à Blainville, ont pour leur part été reconnus pour l'attribution de contrats de production à des organismes œuvrant auprès des personnes en situation de handicap. Dans le cas de Camro Industriel, qui a longtemps eu son siège social à Laval, l'entreprise poursuit depuis maintenant 20 ans sa collaboration avec l'organisme Lavalois, atelier des participants en apprentissage et développement des habiletés de Laval, explique Kim Joly, directrice régionale du regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval. Le programme de reconnaissance « Ici, nous valorisons les talents » s'articule autour de trois objectifs: la valorisation des entreprises engagées pour l'inclusion, la sensibilisation à l'importance de l'inclusion socio-professionnelle et la promotion de l'employabilité de ce bassin de talents sous-représenté et sous-utilisé. Regroupement multisectoriel d'une trentaine de partenaires, facilitant et encourageant la transition et l'intégration à la vie active des personnes ayant des limitations fonctionnelles, la Triva de Laval invite les PME qui contribuent activement à l'inclusion au sein de leur organisation à mettre en lumière leurs efforts. Comment? En soumettant leur candidature via le site triva.ca, T-R-I-V-A-T.ca. Les partenaires financiers derrière ce projet sont la Ville de Laval, le gouvernement du Québec et le Centre de services scolaires de Laval. Avec les travaux de tramway et les entraves qu'ils amènent, les personnes en situation de handicap ont des préoccupations sur leur déplacement à Québec et se sentent un peu oubliées. Ça amène de l'anxiété et de l'inconnu. Ils font des consultations publiques, mais nous, on dirait qu'on est un peu oubliés. Les gens en situation de handicap, a témoigné Michel Dubé, président du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, le CAPVI. Un deuxième événement, porte ouverte pour le tramway, s'est déroulé lundi. Après Sainte-Foy, c'est le secteur Saint-Roch qui était à l'honneur. Un peu moins couru que le rendez-vous qui avait été organisé dans l'ouest de la ville en avril, celui de Saint-Roch a tout de même accueilli un flot continu de curieux et de citoyens en quête de réponses. Monsieur Dubé s'est présenté au Club social Victoria dans l'espoir de faire part des préoccupations des personnes en situation de handicap. Car la période des travaux apporte bien des incertitudes pour elles, affirme-t-il, notamment au plan des transports. Les gens sont même anxieux de sortir. Le CAPVI aurait aimé être davantage consulté en amont. Les recommandations proposées par son organisme n'ont pas suffisamment été considérées. La Ville assure que l'accessibilité est une des principales préoccupations de la Ville pendant les chantiers du projet Tram Cité et que tout est mis en œuvre pour permettre le maintien des déplacements et l'accessibilité des commerces. Le porte-parole Jean-Pascal Lavoie souligne que la Ville invite d'ailleurs les citoyens à nous contacter pour soulever tout enjeu d'accessibilité en lien avec un chantier particulier. Par ailleurs, un nouveau kiosque du service du développement économique avait été mis en place cette fois-ci pour répondre aux commerçants du centre-ville au sujet notamment du programme de compensation de la ville. Pierre Chatigny, horloger, était sur place pour obtenir des réponses sur la possibilité de recevoir de l'aide financière pour d'éventuelles pertes. Comme il se déplace et qu'il reçoit la clientèle sur rendez-vous, il anticipait des potentiels irritants en raison des entraves. « Je ne sais pas si je me qualifie pour le programme », a-t-il mentionné. Il s'est dit optimiste que les travaux se passent bien, mais il espère que les intersections de son secteur entre la Couronne et Dorchester demeureront accessibles, comme la première fois Les citoyens pouvaient également s'informer de la mobilité active des coupes d'arbres, du tracé et du transport en commun. Rencontrée sur place, la conseillère municipale de Saint-Roch, Eleni Lepage, était satisfaite de l'achalandage. C'est une super nouvelle que les gens participent parce qu'il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. Elle rappelle qu'il est également important de rassurer les commerçants et de leur dire que la ville les accompagne là-dedans. Les activités portes ouvertes prennent une pause pour l'été, mais il n'est pas exclu que d'autres se tiennent plus tard au cours de l'année, à l'automne, selon les besoins, a indiqué la Ville de Québec.
Attirer chaque pétale, noircir les pages de ton journal sur l'écritoire en silicone. Tu as gravé le mot à l'onde en bio, zygote et gamètes. Il fallait une échappatoire. Tu fabriquais des amulettes pour conjurer tes idées noires. Près de tes rêves, l'apothéose, ou dangereusement cette prose te projeter, météorite, loin de l'atmosphère en orbite, tout doucement, bien ambigu, fébrile ton style se dessinait, et à l'instar de quelques mots, à nul genre il n'appartenait.
Du sentiment, une chanson de Félix Diot.
Merci beaucoup, Mathieu. C'est presque la fin de la mission au quotidien. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, nous, oui, hein, Mathieu? Malgré votre torticolis, j'espère que ça va s'estomper et même disparaître très, très bientôt parce qu'on est mal quand on a un torticolis. Quand on a mal en quelque part, finalement. Ici Hélène Denis. Passez une belle journée. Demain, Anne Roumanoff, l'humoriste.